En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 13 juin 2012, à l'occasion du tricentenaire de la mort de Giovanni Domenico Cassini, le Bureau des Longitudes a organisé une journée scientifique autour de l'astronome français né en 1625 et décédé en 1712. Giovanni Domenico Cassini s'est investi dans l'étude du système solaire de la Terre jusqu'au Soleil. Il a découvert notamment des objets et des phénomènes tels qu'un certain nombre des satellites de Saturne, ou encore la lumière zodiacale. Membre associé de l'Académie royale des sciences en 1669, on lui doit notamment le calcul de la distance Terre-Soleil, les longitudes terrestres ou encore une cartographie de la Lune. Consulté par Colbert sur la construction de l'Observatoire de Paris, il s'y installe en 1671 et participe à la mesure de la méridienne de l'Observatoire. Le Bureau des Longitudes lui rend donc hommage avec un cycle de conférences. Nicolas Rambaud est un chercheur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE, situé à l'Observatoire de Paris. Il est maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie. Il est également spécialiste des rotations des planètes, des satellites et de la Lune. Il est aussi impliqué dans la préparation du programme Gaïa. Il évoque ici la rotation de la Lune et les lois de Cassini dans le système solaire. Retrouvez dès maintenant la conférence de Nicolas Rambaud qui s'est déroulée à la fondation Del Duca.
Donc bonjour, je suis Nicolas Rambaud. Donc je suis très heureux de présenter aujourd'hui la rotation de la Lune et les lois de Cassini dans le système solaire. On va essentiellement en fait s'intéresser à Titan, qui est un des satellites de Saturne, autour duquel en fait la mission Cassini est en train de prendre des mesures. Donc l'exposé en fait va se répartir en trois points. Donc tout d'abord, je vais présenter les lois de Cassini. Ensuite, je vais décrire la rotation de la Lune et enfin la rotation de Titan. Lorsque vous observez en fait la Lune depuis un point sur la Terre, ce que vous pouvez voir, c'est montré à partir de ce petit film ici. Donc c'est la position de la Lune dans le ciel. Et ce que vous pouvez voir, donc c'est l'image de la Lune pendant un mois. Donc vous voyez les phases, bien entendu. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que vous voyez les mers à peu près au même endroit. Donc ce mouvement-là, en fait, est lié au fait que le mouvement de la Lune est en rotation synchrone autour de son axe polaire, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur son orbite et en même temps, elle fait une rotation autour de son axe polaire. Ce que vous pouvez voir également, c'est que si jamais vous suivez la mer des crises, donc la mer des crises, c'est la petite mer ici à droite, donc si jamais vous la suivez, alors à ce moment-là, vous voyez que vous avez un petit mouvement en fait dans la direction est-ouest et également dans la direction nord-sud. Et ces mouvements-là, en fait, sont appelés les librations. Et ici, vous avez des librations en longitude, parce que c'est dans la direction est-ouest, donc c'est à peu près dans le plan équatorial de la Lune. Et des librations en latitude, c'est dans la direction nord-sud. Et ici, ce que vous voyez, parce que c'est une image, en fait, qui est prise depuis la Terre en train d'observer la Lune, donc ce sont les librations géométriques. Donc c'est ce qu'avait observé Cassini. Et c'est à partir de ces observations de la Lune qu'il en a déduit les lois. Alors, quelles sont les lois de Cassini? Donc, en fait, on a trois lois. Donc, la première loi, en fait, vous décrit le mouvement de rotation de la Lune autour de son axe polaire. Donc, c'est ce qu'on vient de décrire précédemment, où vous voyez, en fait, tout le temps la même phase de la Lune. Donc, elle signifie, en fait, que la Lune, tourne sur elle-même dans la même vitesse qu'elle fait un tour autour de l'orbite. Et comme l'orbite de la Lune, en fait, est légèrement excentrique, donc, au cours de son parcours de l'orbite, la Lune, en fait, va accélérer lorsqu'elle est au périastre, c'est-à-dire le point le plus proche de l'orbite de la Lune par rapport à la Terre, elle va ralentir au niveau de l'apoastre. Comme la rotation de la Lune, en fait, c'est une rotation moyenne, donc du coup, il va avoir un petit décalage lorsqu'elle va passer au périastre, on va avoir l'impression que ça accélère, et ensuite, ça va décélérer. C'est ce qui fait, en fait, le mouvement de balancement de droite-gauche dans la direction est-ouest. En revanche, ce que vous voyez, c'est qu'il y a également le mouvement de balancement dans la direction nord-sud. À ce moment-là, c'est la deuxième loi de Cassini qui va vous décrire ce comportement-là. Vous avez donc l'axe de rotation qui fait un angle constant avec l'écliptique. Cet angle est de 88 degrés. Donc ici, sur ce dessin, vous avez la Terre. En blanc, on a représenté l'écliptique. En rouge, c'est l'orbite de la Lune. Et en bleu ciel, ici, vous avez l'équateur lunaire et l'axe polaire de la Lune. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque la Lune, en fait, parcourt son orbite, ben un coup vous allez voir la Lune un petit peu par en dessous et un autre coup vous allez la voir un petit peu plus par au-dessus. Donc c'est ce qui va vous donner en fait le mouvement de libration en latitude. Ensuite, la troisième loi, qui est vraiment la loi la plus surprenante et la plus dure à déduire, donc qui est tout à l'honneur de Cassini. Donc la troisième loi, en fait, elle est au niveau des plans. Donc vous avez le plan de l'écliptique, qui est représenté ici par le cercle blanc. Vous avez l'équateur de la Lune par le cercle bleu et l'équateur de l'orbite lunaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équateur de l'orbite lunaire est incliné de 5,2 degrés par rapport à l'écliptique et en même temps, il a un mouvement de précession de 18 en 6. Ce mouvement de précession, il est dû en fait à l'effet du Soleil sur l'orbite de la Lune. Et donc ce que Cassini a montré, en fait, c'est qu'en même temps que vous avez le plan rouge qui précesse, vous avez le plan bleu qui va précesser exactement à la même vitesse en 18 en 6. Donc ça, c'est ce qui est représenté par le schéma de droite. Vous avez en fait la normale de l'écliptique et puis le petit cercle en fait décrit le mouvement du pôle de la Lune et en rouge c'est le mouvement de la normale par rapport à l'orbite. Et vous avez les deux cercles en fait qui sont décrits en 18 en 6 et vous avez les trois pôles qui sont alignés. Ce sont en fait les lois qui ont été déduites par Cassini et ici elles sont formulées par Tisserand en 1898. Alors en plus de ces lois de Cassini et de ces librations géométriques, il y a Newton qui avait suspecté en fait la présence de librations physiques. Alors les librations physiques, ici sur ce dessin, c'est en rouge, vous avez toujours l'orbite de la Lune. Ici vous avez la Lune qui est représentée au niveau de l'équateur. Et la Lune en fait elle est aplatie, elle est en une forme ellipsoïdale. Et lorsqu'elle passe à l'apoastre, donc sur l'apoastre elle va moins vite sur son orbite, sa rotation est uniforme. Et donc vous allez avoir des couples qui vont être générés, qui sont liés en fait à la Terre, à la présence de la Terre. Et ces couples-là, en fait, en réponse à ces couples, bah, la Lune en fait va librer. Elle va avoir des librations physiques, et l'amplitude de ces librations physiques va dépendre en fait des moments d'inertie, c'est-à-dire de la distribution de masse à l'intérieur de la Lune. Et donc ainsi, en mesurant les librations physiques, on va être capable de pouvoir connaître la structure interne de la Lune et de remonter en fait à de l'information sélénophysique. Un rapide historique sur les lois de Cassini et la libration, donc avec la carte des Vélus qu'a montré Suzanne précédemment. Tout d'abord, les librations optiques ont été identifiées par Galilée en 1632, et ensuite elles ont été décrites par Riccioli et Vélus. Ensuite, Newton donc, a apporté une explication sur l'origine en fait, de ces librations, également a fait l'hypothèse pour la libration physique. Les lois de Cassini donc, ont été déterminées par Cassini en 1693, et à peu près un siècle plus tard, Lagrange a pu expliquer ces lois à partir de la théorie mathématique. Les librations physiques, quant à elles, ont été mesurées en 1839 par Bessel. Et aujourd'hui, donc, on a un énoncé relativement clair et moderne en fait, de ces librations. Alors, pour les théories actuelles, en fait, il y a eu un renouveau pour l'étude des états de Cassini, avec la généralisation donc, par Colombo et Peale, et puis une description en fait, des états de Cassini par plusieurs auteurs. Alors, en fait, les lois de Cassini, vous pouvez les voir comme un état d'équilibre de la position de l'orientation de la Lune. Et ce que ces auteurs ont trouvé, en fait, c'est que cet état d'équilibre, en fait, il n'y en avait pas qu'un seul, il y avait quatre états d'équilibre qui sont possibles. Alors, je ne vais pas décrire les deux schémas qu'on voit en dessous, mais les états d'équilibre, en fait, pour le schéma de droite, on peut les calculer comme étant l'intersection d'une sphère avec une parabole. Et à ce moment-là, en fait, au niveau des points de contact ici, ben vous avez un extrémum au niveau de l'énergie, donc vous avez des états d'équilibre. Et ainsi, on va passer des lois de Cassini à des états de Cassini qui décrivent en fait des états d'équilibre de l'orientation des corps. Pour le graphe de gauche, ce graphe en fait représente la valeur de l'obliquité, donc de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Lune par rapport à son plan orbital, en fonction ici du paramètre de la valeur de la précession. Alors actuellement, pour la Lune, vous avez à peu près deux états d'équilibre qui sont possibles. Mais si jamais la Lune évolue sur son orbite, c'est ce qui est arrivé en fait avec les marées, alors à ce moment-là, vous voyez que vous pouvez générer d'autres états d'équilibre. Donc au cours de son histoire, en fait, la Lune a connu plusieurs états d'équilibre, plusieurs états de Cassini, et donc elle a connu certaines transitions de phase en fait, qui peuvent impliquer des conséquences importantes pour sa dynamique. Donc maintenant, pourquoi étudier la rotation ? Donc, comme vous venez de voir, en fait, la rotation, ça peut être important pour essayer de comprendre la dynamique. Donc, à ce moment-là, on va principalement étudier les aspects mathématiques, mais aussi pour comprendre l'évolution à long terme des corps. Et ici, je vais plutôt vous montrer, en fait, qu'on peut sonder, en fait, l'intérieur des planètes. Alors, pour ça, on a un petit film ici avec deux œufs. Il y en a un qui est cru et un qui est cuit. Et donc, en regardant en fait la rotation de ces deux œufs, ben, on peut avoir une idée en fait de quel œuf est cru et quel œuf est cuit. J'imagine que vous avez tous trouvé. Donc, celui qui est cuit, c'est l'œuf qui est brun. Alors également, il y a un autre aspect intéressant pour la rotation, ça va être de contraindre la structure géologique. Par exemple, ici, c'est une image en fait qui représente la surface de glace d'Europe, qui est un satellite de Jupiter. Et donc, Europe en fait est déformée par les effets de marée de Jupiter. Et lorsque vous déformez en fait une surface glacée, à ce moment-là, vous pouvez créer des fractures au niveau de la surface. Et ensuite, les fractures en fait, elles vont se propager sur la surface. Donc, c'est ce qu'ont proposé ces auteurs. Parce qu'ici, là, vous voyez, vous avez ces structures sous forme de cycloïdes. Et en fait, lorsque vous prenez un modèle géologique pour modéliser ces structures-là, et que vous comparez donc avec le mouvement de rotation d'Europe, ce que vous avez besoin, c'est de faire tourner Europe un petit peu plus rapidement, en fait, que la rotation synchrone. Donc, du coup, ces auteurs ont proposé que Europe pouvait être en rotation non synchrone. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est plus dans le cadre des lois de Cassini où on avait la rotation synchrone. Alors, actuellement, en fait, cette hypothèse-là est encore débattue. Et il y a encore beaucoup de discussions parce que les modèles, en fait, pour expliquer ces structures-là sont pas très bien contraints encore. Et enfin, bien sûr, on peut s'intéresser à la rotation pour faire de la cartographie, de la géodésie et arriver, en fait, à se repérer sur la surface d'un corps. Alors, la description de la rotation de la Lune. Donc, Agnès a très bien montré ce qui était fait au niveau de la télémétrie laser Lune. Donc, depuis les missions spatiales Apollo où ils ont déposé des rétroréflecteurs, c'est-à-dire des miroirs, sur la surface de la Lune, eh bien, en fait, on arrive à très bien mesurer la position, mais aussi le mouvement de rotation de la Lune. Donc, on tire depuis la Terre, comme ici, par exemple, la station à Calerne. Donc, on tire sur la Lune et on récupère, en fait, le temps de trajet aller-retour d'un photon. Et sur cette image-là, ici, vous avez la répartition, en fait, des différents rétroréflecteurs qui ont été déposés sur la Lune. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a 5. Donc, ils sont plutôt assez bien distribués. Et ainsi, en fait, on peut mesurer le mouvement de rotation, donc le mouvement de libration de la Lune. Alors, les trois, en fait, bleus, ce sont les rétroréflecteurs qui ont été déposés par les Américains. Les deux rouges, ce sont les rétroréflecteurs qui ont été déposés par les Russes, de construction française. Et en fait, ce rétroréflecteur-là, en fait, a été perdu pendant à peu près 30 ans. Et récemment, avec la mission spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter, on a pu trouver l'emplacement en fait, de ce rétroréflecteur-là et on a reçu l'écho de ce rétroréflecteur qui marche très bien. Donc du coup, on a retrouvé un objet qu'on a perdu pendant plusieurs années sur la Lune. Alors, donc, on a les modèles en fait, pour calculer le mouvement de rotation de la Lune. Donc Agnès a présenté avec INPOP, également EMP, les éphémérides russes et les DE, donc les éphémérides américaines. Donc on a une précision de l'ordre de 4 à 2 cm et à peu près 1 milliard de secondes en rotation. Alors 1 milliard de secondes, grosso modo, ça fait la taille d'une orange vue à 20 000 km. Ça fait une très grande précision. Et donc Agnès a décrit tout ça. Donc on peut utiliser en fait ces éphémérides-là pour essayer d'explorer la rotation en fait de la Lune. Alors la rotation de la Lune, elle dépend en fait de nombreux couplages. Donc quand vous regardez la Lune en mouvement autour de la Terre, donc la distance entre la Terre et la Lune va être perturbée par la présence du Soleil, mais également par la présence des planètes. Et le couple gravitationnel donc exercé par la Terre sur la figure dynamique de la Lune, en fait, va dépendre de la façon dont vous modélisez le champ de gravité de la Lune, mais aussi celui de la Terre. Donc on va parler des effets figure-figure, des développements en harmonique sphérique. Également, au niveau de la Lune, il va falloir tenir compte des déformations de marée, puisque tout comme la Terre, donc la Lune en fait se déforme au cours du temps. Et également, à l'intérieur de la Lune, on suspecte la présence d'un noyau fluide. Donc on va voir quelles sont les conséquences. Les conséquences en fait sont représentées sur ce schéma-là. Donc ici, vous avez la Lune. En noir, vous avez la normale par rapport à l'écliptique. En bleu, vous avez la normale par rapport à l'orbite. Et en rouge, vous avez le pôle de rotation de la Lune. Donc ce sont les trois axes que j'ai présentés tout à l'heure. Et en fait, on s'attend à que ces trois axes tournent dans le même plan en 18-6. Or, ce qui a été mesuré, c'est un léger décalage en fait, au niveau de l'orientation de l'axe polaire de la Lune d'à peu près 0,26 arcsecondes. Et ce décalage-là, en fait, il est expliqué par les effets dissipatifs de la Lune, c'est-à-dire les marées, mais aussi la présence en fait, d'un noyau fluide où au niveau de l'interface entre le noyau et le manteau, vous avez de la friction. Donc en fait, ce décalage-là de l'axe de rotation de la Lune est une signature indirecte de la présence du noyau fluide. C'est le type d'information qu'on peut obtenir en fait en étudiant précisément les lois de Cassini ou les états de Cassini pour les planètes. Également, au niveau des librations physiques, donc ici c'est une illustration pour les librations en longitude. Donc ce qu'on fait ici, on regarde l'angle de libration en longitude, c'est-à-dire donc vous avez le plan équatorial de la Lune, vous avez l'axe le plus long, et on regarde ces oscillations. Donc ces oscillations sont représentées dans cette figure. Vous avez ici le comportement de la libration en longitude en fonction du temps. Ici, c'est représenté sur 20 ans. Et vous pouvez étudier, en fait, précisément les oscillations qui sont présentes. Et à ce moment-là, vous pouvez tracer l'amplitude de l'oscillation en fonction de sa fréquence. Et ensuite, vous pouvez associer, en fait, l'origine de chacune des librations. Donc par exemple, l'oscillation ici à 275 ans, ça va être lié aux perturbations planétaires. Vous allez avoir des librations qui sont liées à l'aplatissement de la Terre, donc à l'interaction et le couplage entre ces effets-là. Une libration intéressante a été mesurée, en fait, c'est le mode propre de la Lune. Donc le mode propre, en fait, la Lune peut être représentée comme un mouvement d'un pendule, et à ce moment-là, elle a une période propre, et l'amplitude, en fait, de cette période-là va dépendre de l'histoire, en fait, de votre corps. Toute l'idée, en fait, était de pouvoir le mesurer à partir des éphémérides, et on détermine une amplitude de l'ordre de 1,2 arcseconde. Maintenant, comme la Lune, en fait, dissipe au cours de son temps, on s'attend à que le mode propre a une amplitude égale à zéro. Donc maintenant, toute la question est de trouver quelle est l'origine de ces modes propres-là. Donc il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées, comme par exemple la traversée d'une résonance proche, ou alors une excitation qui est liée, en fait, à la présence d'un noyau fluide. Et là, c'est le travail actuel, en fait, sur les librations de la Lune. Donc maintenant, je vais passer à la description pour la rotation de Titan. Alors Titan, en fait, est actuellement donc visité par Cassini. Donc c'est la mission spatiale qui est dans le système de Saturne. Titan est un satellite vraiment particulier puisqu'il présente une atmosphère très dense et certainement, en fait, il possède un océan interne. Alors ce qui est intéressant avec Titan, c'est qu'on a des mesures de rotation et les mesures de rotation, en fait, sont obtenues à partir des données radar. Donc à partir des différents fly-by effectués au-dessus de Titan. Donc ça, c'est une carte qui vous représente Titan. Et puis ici, là, les bandes, ce que vous voyez, en fait, ce sont les fly-by. Donc, ce que les gens ont fait, ils ont pris, en fait, les endroits où vous avez des intersections entre les différents fly-by, c'est-à-dire des mesures qui sont prises à des temps différents. Et ils ont reconnu, en fait, des points particuliers, par exemple, des lacs. Et ensuite, lorsque vous remontez, en fait, à la position des lacs en fonction du temps, vous avez besoin d'un modèle de rotation. Donc ainsi, en superposant, en fait, tous les points des lacs en fonction du temps, vous pouvez remonter à la rotation de Titan. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déterminé en fait que l'obliquité de Titan, c'est-à-dire l'angle entre l'axe de rotation et la normale par rapport à l'orbite, est de l'ordre de 0,3 degrés, et peut-être une rotation non synchrone. Alors, nous allons voir ce que cela implique en fait pour la mesure de l'obliquité. En bas à gauche, vous avez Titan. En blanc, vous avez la normale par rapport à l'équateur de Saturne. En jaune, vous avez la normale par rapport au plan de l'orbite, et en bleu, c'est la normale par rapport à l'axe de rotation. Donc ici, l'axe jaune et l'axe bleu précèdent tous les deux dans un même mouvement en à peu près 730 ans pour Titan. Le mouvement de précession est essentiellement dû en fait à l'aplatissement de Saturne. Ensuite, sur le graphique de droite, donc en XY, c'est représenté le plan de l'équateur de Saturne, et ce que vous voyez, en fait, c'est la projection ensuite de la normale par rapport à l'orbite et de la normale par rapport à la rotation pour trois différents modèles de rotation. Alors pour l'orbite, c'est la petite courbe en jaune. Donc vous voyez, vous avez un mouvement à peu près circulaire en 730 ans, et ensuite vous avez des petites oscillations à l'intérieur. Et si vous prenez un modèle de rotation solide de Titan, alors à ce moment-là, vous obtenez une inclinaison de 0,1 degré. C'est-à-dire, c'est la courbe blanche, ici. Et donc, ce qu'ont fait les différentes personnes, c'est d'étudier, en fait, quel est l'impact de la présence d'un océan fluide sur l'obliquité, en fait, de Titan. Et ils en ont trouvé deux modèles, en fait, qui permettaient d'expliquer les observations, qui sont représentés par la croix ici, qui est proche de l'axe Y. Un modèle, en fait, vous avez un océan fluide, mais très peu profond, donc c'est la courbe bleue. À ce moment-là, en fait, vous arrivez à avoir une obliquité moyenne assez importante qui arrive à expliquer les 0,3 degrés. Et l'autre modèle, en fait, opposé, c'est un modèle, en fait, où vous avez aussi un océan, mais cet océan est beaucoup plus profond. Donc à ce moment-là, l'obliquité moyenne est toujours proche de 0,1 degré, En revanche, vous avez des grandes oscillations qui vous permettent en fait d'arriver ici au point de l'observation. Donc ce sont les grandes oscillations, c'est pour le modèle ici en fait en violet. Dans tous les cas, en fait, on a besoin d'un océan liquide pour pouvoir expliquer cette obliquité. Donc ce que nous cherchons à faire en fait maintenant, c'est à modéliser le mouvement de libration des Titans et voir si dans les données, on peut déterminer l'amplitude des librations. Donc sur ce graphique, c'est la libration en longitude de Titan. Donc c'est comme la libration en longitude de la Lune que j'ai montré précédemment. Donc c'est l'oscillation de l'axe le plus long de Titan. Ici, c'est en fonction du temps, donc c'est à peu près sur 60 ans. Sur les ordonnées, ici, vous avez 1,5 km d'amplitude. Alors, pourquoi on a une amplitude en kilomètres ? Parce qu'on regarde l'angle et on multiplie par le rayon en fait de la planète. Donc du coup, ça vous montre le déplacement d'un point à la surface de Titan. Et ici, donc, vous voyez qu'il y a des grandes oscillations qui sont de l'ordre de 30 ans, qui est deux fois la période orbitale en fait, de Saturne, et vous avez des modulations qui sont de l'ordre de 14 ans. Également, vous voyez vous avez une épaisseur dans le trait, et cette épaisseur dans le trait est liée en fait, à des périodes d'oscillation de 16 jours, qui représentent la période orbitale en fait, de Titan. Ce qui est intéressant, c'est l'étude en fait, de ces périodes courtes qui vont porter l'information sur la structure interne. Ici, sur ce graphique, vous avez les différentes périodes, donc 16 jours, 14 ans, 30 ans, en fonction donc de différents modèles qui sont représentés par chacune des couleurs. Donc en bleu, vous avez un modèle d'océan peu profond. En violet, vous avez un modèle d'océan très profond. Et en jaune, vous avez un modèle solide. Donc ce que vous voyez, c'est que pour les longues périodes, vous avez tout le temps à peu près la même amplitude. En revanche, pour la période à 16 ans, vous arrivez à distinguer en fait les différentes amplitudes. Donc ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de retraiter les données radar pour essayer d'obtenir l'information en fait sur l'amplitude des librations, essayer de trancher entre les différents modèles en fait de structure interne de Titan. Donc en fait la rotation les états de Cassini, vous pouvez en trouver dans plusieurs corps dans le système solaire. Il y a également Mercure. Donc récemment Jean-Luc Margaux par des mesures par interférométrie radar a pu mettre en évidence en fait la présence d'un noyau fluide dans Mercure en regardant l'amplitude des librations également en déterminant la position de son obliquité. Et actuellement, on commence à détecter la libration dans plusieurs corps dans le système solaire, dont Phobos, Janus et Encelade. Donc actuellement, si vous comptez avec la Lune et Titan, vous avez 5 satellites dont on a mesuré les librations et une planète, Mercure, dont on a mesuré les librations. Alors, Mercure, elle est en résonance 3,5. C'est-à-dire, en fait, qu'elle fait 2 révolutions autour du Soleil en même temps qu'elle fait 3 rotations autour de son axe polaire. Donc elle a une résonance un petit peu particulière par rapport à la Lune. Également pour Europe, on a peut-être des signatures en fait, d'une rotation non synchrone, mais ça c'est encore débattu. Et aussi, on peut étudier les états de Cassini avec un point de vue à long terme. Donc notamment, qu'est-ce qui se passe lorsque la Lune en fait, change d'état de Cassini? À ce moment-là, vous pouvez avoir un balancement relativement important de la Lune, et des gens ont proposé que ce balancement-là aussi pouvait générer un effet dynamo pour expliquer en fait, la dynamo de la Lune dans le passé. Également, des gens ont étudié Saturne avec un état de Cassini équivalent, pour essayer d'expliquer la grande inclinaison de Saturne, qui est à peu près de 26 degrés par rapport à l'écliptique, alors que si vous regardez pour Europe, vous trouvez 3 degrés. Mais donc, en conclusion, donc les lois de Cassini sont devenues les états de Cassini, qui permettent de décrire en fait le mouvement de rotation moyen des corps en rotation spin-orbite. Et l'obliquité moyenne et la libration physique en fait, permettent d'obtenir de l'information sur la structure interne des corps. Et aujourd'hui, donc, grâce à de nouvelles données, en fait, on arrive à accumuler en fait, des librations pour différents satellites et de nouveaux projets sont également mis en place. Je vous remercie.
Canal Academy vous propose cette retransmission de la conférence de Nicolas Rambaud, chercheur de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides situé à l'Observatoire de Paris, l'IMCCE. Son propos évoquait la rotation de la Lune et les lois de Cassini dans le système solaire. Une conférence qui avait lieu à l'occasion de la journée scientifique 2012 organisée par le Bureau des Longitudes en l'honneur de Giovanni Domenico Cassini. Retrouvez en fin d'article le diaporama qui accompagnait cette présentation. Je vous invite à écouter les autres retransmissions des conférences tenues lors de cette journée scientifique sur le site de Canal Academy dans la rubrique « En colloque ». Sachez que les conférences du Bureau des Longitudes sont gratuites et accessibles au public. Pour en connaître le programme, rendez-vous sur le site www.bureaudeslongitudes.fr.